BFM Business présente Good Morning Market.
L'actualité financière et économique continue sur BFM Business. Dans un instant, l'ouverture des marchés européens. On va voir si la séance pour le CAC 40 se passe mieux aujourd'hui qu'hier, parce que Étienne Brack, ça a été compliqué quand même hier.
Avec un CAC 40 qui a perdu plus de 2% à l'ouverture. On l'a vu dans cette émission, les 40 valeurs du CAC 40 étaient dans le rouge et les 120 valeurs du SBF 120 étaient dans le rouge. Alors bon, il n'y avait pas de panique généralisée, mais ça montrait quand même qu'il y a eu des prises de profit importantes, notamment sur le secteur bancaire qui a tout de même perdu plus de 10% en l'espace de deux séances. In fine, hier soir, le CAC 40 a perdu 1,7%. Il a tenu de justesse les 7700 points. Il a perdu 200 points, c'est simple, entre lundi en début d'après-midi, avant la prise de parole de François Bayrou, et hier soir à la clôture.
On va reparler des marchés obligataires dans un instant, mais quand même, quand on regarde le CAC 40, ce qui a le plus souffert, ce sont les banques et puis les entreprises potentiellement qui ont des contrats publics.
En effet, les entreprises domestiques, les entreprises qui font une bonne part de leur chiffre d'affaires en France, c'est notamment le cas de sociétés comme Eiffage, qui ont encore perdu plus de 7% à la clôture. Idem pour Vinci, avec bien sûr l'éternelle question des autoroutes qui est très présente dans le débat public. Et puis quand vous regardez le secteur bancaire, ça a été prétexte également à quelques prises de profit. Secteur qui a très bien performé. Pour rappel, Société Générale, malgré les moins 10% en deux jours, gagne toujours 92% depuis le début de l'année. Donc c'est quand même des performances qui sont tout à fait honorables. Donc dans le doute, il y a eu quelques prises de profit sur ces valeurs. Dans l'attente d'en savoir un petit peu plus sur la politique, dans l'attente également d'en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer du côté des États-Unis, puisqu'on le voit, il y a pas mal d'incertitudes là aussi, que ce soit sur l'indépendance de la Fed avec Lisa Cook, va-t-elle quitter son siège ou pas, en tout cas elle essaye de se battre, et puis Jerome Powell également qui est attendu au tournant dans une quinzaine de jours sur une baisse de taux de 25 points de base.
Sur les marchés obligataires, alors Bertie Bayer disait il y a quelques instants, on crie au loup, ça n'a pas bougé outre mesure, on tourne toujours autour des 3,50.
Oui.
C'est pas un stress majeur.
Pas du tout. Et encore ce matin, le 10 ans français est à zéro pointé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à hier. Il y en a eu très peu hier soir. Il y en a à nouveau très peu ce matin. 3,49 pour le 10 ans français. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour l'instant, la dette française n'est pas attaquée. Il y a toujours la signature euro qui est là. Il y a la BCE qui est là au cas où. Et puis surtout, 3,5%, notamment pour les Japonais. Ils estiment, on l'a vu notamment hier dans
Bloomberg.
C'est
rentable.
C'est une opportunité, en tout cas pour certains allocataires qui essayent de mettre un petit peu moins d'argent aux États-Unis. On l'a vu notamment avec le dollar. Il y a eu pas mal de mouvements sur les devises depuis le début de l'année. Et puis également, pas mal d'incertitudes sur la Fed. Donc au final, malgré tout cela, vous avez un 10 ans français qui pour l'instant n'est pas attaqué. Et puis alors, le moral des ménages, il est pas bon.
Ils surépargnent même.
Et donc ils vont dans l'assurance-vie. On l'a vu, collecte record en début d'année. Et puis aussi, beaucoup d'argent qui dort sur les comptes à vue. Et tout ça, ça finit où ? En partie sur la dette française. Et donc mine de rien, c'est un coussin. Ça permet d'amortir un petit peu ces incertitudes sur la dette française.
Vous allez me dire, Étienne, quand on sera sûr, on se compare, mais je rappelle quand même que les taux britanniques à 10 ans sont au-dessus de 4,70 et que c'est difficile aussi pour Rachel Reeves en Grande-Bretagne de faire passer son budget.
Oui, parce qu'elle devait faire plus de 30 milliards d'économies. Là, elle va devoir en faire au moins 20 milliards de plus, avec notamment un 10 ans du côté de Londres qui était hier à 4,7%. C'est une première en l'espace de 30 ans.
Le CAC 40 qui ouvre en vert.
En légère hausse de 0,1%, toujours au-delà donc des 7700 points, 7721 points pour l'indice parisien. À noter que les valeurs qui ont été sanctionnées hier respirent très légèrement ce matin. Du côté des valeurs en baisse, a souligné Veolia qui cède 0,5%, Edenred ou encore Unibail cède également 0,4%, alors qu'à l'inverse, Bouygues reprend 0,6%, idem pour Engie. Du côté du SBF 120, a souligné Atos, Eiffage ou encore Eutelsat qui signent les trois plus fortes hausses, alors qu'à l'inverse, Sodexo, Verallia et Nexity cèdent un peu plus d'1% à l'ouverture et donc une hausse vraiment timide, plus 0,1% à l'ouverture. On ne récupère pas du tout les 1,7% de baisse d'hier soir à 7 721 points.
Donc. Avant qu'on parle de votre émission Good Morning Market qui va commencer dans un instant, il y a une valeur à suivre. Aujourd'hui, c'est ce soir, mais c'est après bourse, c'est la publication d'NVIDIA.
Et c'est ce qui explique en partie l'attentisme ce matin à l'ouverture, puisque figurez-vous que NVIDIA va publier ses résultats trimestriels ce soir. C'est la dernière des 7 magnifiques à ne pas avoir encore publié ses résultats trimestriel. Pour rappel, NVIDIA, c'est 8% de la pondération de l'indice S&P 500. C'est énorme. Un deuxième chiffre, pour pas trop vous noyer, capitalisation boursière au-delà des 4 000 milliards. C'est juste énorme.
La seule entreprise au monde.
Oui. Alors Microsoft l'a rattrapé il y a quelques jours et puis là, ces derniers jours, elle est passée en dessous de ce seuil symbolique. Hier soir, à la clôture, nous étions à 4 390 milliards de capitalisation boursière pour NVIDIA avec une performance. Bon, je vais pas vous faire rêver sur 5 ans, sur 10 ans, mais regardons juste depuis, vous savez, le jour où Donald Trump a annoncé ses droits de douane. C'était début avril. Eh bien, le titre Nvidia, depuis début avril, a pris 90%. On ne parle pas d'une penny stock, on ne parle pas d'une crypto-monnaie, on parle d'une valorisation de 4 000 milliards et donc un titre qui a quasiment doublé en l'espace de 5 mois. Nous étions à 181 $ hier soir à la clôture, avec donc beaucoup d'attentes concernant Nvidia, et on l'a vu, tous les GAFAM qui l'ont encore confirmé lors de leurs résultats fin juillet, qui continuent d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. Nvidia détient plus de 80% de parts de marché dans ses puces dédiées à l'intelligence artificielle, ce qui fait que les attentes sont très hautes. Vous avez un consensus qui s'attend à une hausse de chiffre d'affaires de l'ordre de 40 à 50% de hausse de chiffre d'affaires par rapport à l'an passé.
Nvidia, ça sera donc publication ce soir après bourse. On suivra ça bien sûr demain matin avec attention au menu de Good Morning Market ce matin.
Eh bien, nous allons parler dans un instant avec Michel Martinez qui nous attend depuis Société Générale du dividende français. Pourquoi il est à 3,5%? Pourquoi il n'y a pas de panique? Nous en parlons donc dans un instant. Et puis, on reviendra également en portefeuille d'ici à un gros quart d'heure sur les valeurs qui ont été sanctionnées hier. Faut-il y revenir ou pas? Réponse avec Alain Dubrulle de Claresco qui sera avec nous dans Good Morning Market.
Eh bien, c'est parti et moi je vous dis à demain matin.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
9h05, c'est parti pour Good Morning Market en direct sur BFM Business jusqu'à 10h. Et puis ensuite, vous allez retrouver Raphaël Legendre et ses experts de 10h à 11h sur BFM Business. On l'a vu il y a un instant, le CAC 40 rebondit très légèrement après sa baisse de plus de 3% en l'espace de deux jours. Plus 0,35% à l'ouverture, 7736 points quand le 10 ans français de son côté se stabilise à 3,5%. Nous en parlons dans un instant avec Michel Martinez. Nous reviendrons bien sûr sur les valeurs qui ont été attaquées hier. Faut-il y revenir ou pas? Et puis le marché obligataire du côté des entreprises. Comment ils résistent? Réponse, élément de réponse en tout cas à 9h30 avec notamment les équipes de Montpensier, Arbevel et Ronan Blanc qui sera avec nous. Mais tout de suite, c'est l'éclaireur. Et notre éclaireur donc ce matin, c'est Michel Martinez qui nous attend depuis Société Générale CIB. Michel Martinez qui est chef économiste Europe. Bonjour Michel Martinez, merci de nous accompagner ce matin afin de faire un petit point en effet sur la situation française. Je le disais en préambule, le 10 ans français se stabilise à 3,5%. Pour l'instant, il n'y a pas de gros mouvement sur la dette française, contrairement à certaines valeurs qui ont pu trébucher ces derniers jours. Comment expliquer ce calme relatif sur la dette française ce matin?
C'est parce que il n'y a pas de panique, comme vous le dites. Il n'y a pas de panique parce que la situation actuelle politique, elle reflète une situation de blocage. Il y a une fragmentation du paysage politique en France, au Parlement. Le résultat de cette fragmentation, c'est que même si le gouvernement tombe, a priori, on aura le même type de politique économique. On va pas avoir les budgets, les déficits publics sont élevés. Pour le moment, rester autour de 5% du PIB. Mais il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas d'erreur, il n'y aura pas d'erreur manifeste de politique économique. Et c'est ça que. Et c'est ce type d'erreur de politique non orthodoxe que le marché sanctionnerait. Mais à ce stade, ce n'est pas envisagé.
Et puis malheureusement, des séances comme on a vu hier, il y en a eu d'autres au mois de décembre, juste avant la nomination de François Bayrou. Il y a également eu les séances lors de la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin. Malheureusement, c'est des séances qui se suivent et qui se ressemblent.
Oui, alors la situation, qu'est-ce qu'elle reflète? C'est que les taux d'intérêt français continuent d'augmenter, 3,5 pour le 10 ans. On se rapproche de l'Italie, il n'y a plus que quelques bips d'écart, 6-7 bips d'écart. Avec 5% de déficit public, la dette publique française, elle est à 114% du PIB, donc elle va, d'ici 10 ans, elle va être à peut-être 125. Mais à 125% du PIB, on sera toujours à des niveaux de dette publique inférieurs à ceux de l'Italie, qui, elle, a réussi à avoir un déficit public autour de 3% du PIB. Donc, d'une certaine manière, tant qu'il n'y a pas d'erreur manifeste de politique économique, à chaque fois qu'il y a un bruit politique, donc un changement de gouvernement, les marchés se disent que la situation des finances publiques françaises va continuer de se dégrader, mais que, et peut-être qu'on aura des taux d'intérêt en France supérieurs, légèrement supérieurs à ceux d'Italie, mais il n'y a pas de quoi paniquer à ce stade. Et en particulier, l'Italie agit comme une force de rappel. C'est difficile. Il faudrait envisager un scénario d'erreur de politique économique pour que la France emprunte à des niveaux significativement supérieurs à ceux de l'Italie.
3,5% à l'instant pour le 10 ans français quand le 10 ans italien est à 3,56. C'est dans ce contexte que les entreprises, mais aussi les États, les gouvernements, eh bien, doivent faire face à la guerre commerciale avec les États-Unis. On l'a vu en plein cœur de l'été, hein. Ça y est, désormais, le tarif, c'est 15% pour l'Union européenne. Qu'est-ce que ça change dans vos modèles chez Société Générale CIB, Michel Martinez, cette guerre commerciale et ce tarif de 15%?
De fait, on change pas grand-chose parce que c'était quand on tient compte de toutes les exemptions. Alors il y a des produits qui sont taxés à 50% comme l'aluminium, l'acier. Il y a des exemptions. Il y a 15% pour la plupart des produits et en moyenne le taux d'imposition il est plutôt de l'ordre de 11%. Et 11%, si vous vous souvenez, en avril dernier, le jour de Liberation Day, on était plutôt quelques jours après, de l'ordre de 10%. Donc ça change pas grand-chose. Et la réalité, c'est que nous, comme la plupart des économistes, hein, quand vous regardez le consensus des économistes pour l'Europe, les prévisions ont augmenté. En début d'année, on était les prévisions de croissance pour cette année étaient inférieures à 1%, l'ordre de 0,9. Aujourd'hui, le consensus est à 1,2 pour la croissance de cette année. Donc finalement, la situation actuelle ne change pas grand-chose par rapport à celle qu'on craignait début avril. Et de toute façon, l'impact économique, il va être modéré parce que ça représente quelque chose entre 0,3 et 0,4% du PIB de l'Europe, cumulé avec des effets qui sont un peu retardés dans le temps. C'est un choc tout à fait absorbable. C'est un choc qui est nettement inférieur à celui de la crise énergétique. À ce moment-là, la facture énergétique de l'Europe a augmenté de 4 points de PIB, où c'est nettement inférieur au choc du Covid. C'est un petit choc économique, en fait. Donc, ça change pas grand-chose pour nos prévisions économiques.
Et du côté des entreprises, comment elles agissent dans ce contexte qui était quand même assez incertain, hein, puisque ce fameux chiffre de 15% de droits de douane a quand même mis plusieurs semaines avant d'être acté. On voit quand même que l'investissement des entreprises en France, mais pas seulement, est un petit peu en retrait, hein, puisque toutes ces questions sans réponse n'incitent pas les entreprises à prendre des décisions.
Alors après, il y a la situation particulière de la France, pour les raisons qu'on a évoquées, l'incertitude de politique économique, c'est le point de vue budgétaire qui incite à l'attentisme de tous les agents économiques, et c'est pas simplement les entreprises, ce sont aussi les ménages qui sont prudents, qui épargnent. Il y a la situation très particulière de l'Allemagne qui est le reflet des problèmes de compétitivité, des chocs structurels, mais quand vous regardez le reste de l'Europe, on voit pas ce signe d'attentisme. On a une croissance en Europe qui est au-dessus de ce qu'on appelle nous le potentiel, au-dessus de la moyenne historique. Donc ça va bien dans le reste de l'Europe. Si les économistes ont raison, cette année 1,2% de croissance, c'est pas mal pour l'Europe parce que c'est mieux que la moyenne de potentiel qui est de 1%. Donc la question de l'investissement, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement rapide en Europe, mais il reste assez correct, à l'exception effectivement de la France et un degré moindre de l'Allemagne.
Merci beaucoup Michel Martinez de nous avoir accompagné ce matin. Je rappelle que vous êtes chef économiste Europe chez Société Générale CIB. Merci d'avoir pris un petit peu de recul, hein, par rapport à toutes ces nouvelles à chaud. Et c'est vrai que ça fait un petit peu du bien de sortir un petit peu du bruit et de ces nouvelles un petit peu anxiogènes. À 9h13 tout de suite, on va regarder ce qui se passe du côté des marchés avec un rebond léger qui s'opère à la Bourse de Paris. Et c'est Romain Dobré qui nous attend ce matin, consultant pour Bourse Direct. Bonjour Romain, merci de participer à cette émission. Good Morning Market, 9h, 10h tous les matins sur BFM Business. Alors pour ceux qui sont à la télévision, bon, ça fait du bien un petit peu, petite bouffée d'air là, hein. Hier matin à la même heure, les 40 valeurs du CAC 40 étaient dans le rouge. Bon, ce matin on a 29 valeurs qui sont dans le vert, ça souffle un petit peu. On a LVMH qui soutient la tendance, plus 1,8% à la porte des 500 €, 495 €. Kering également plus 1,4%, Pernod Ricard reprend 1%, Pernod Ricard qui va publier d'ailleurs ses résultats annuels dans les prochaines heures. Que voyez-vous, Romain, du côté d'un point de vue technique, le seuil des 7700 points là, qui a l'air de tenir ce matin à la Bourse de Paris?
Oui, on temporise un petit peu dans un message qui globalement n'est pas terrible graphiquement. Il faut rappeler que les indices européens, le DAX, l'Eurostoxx et le CAC 40, tentaient en fin de semaine dernière de réactiver une dynamique haussière qui était en panne depuis fin mai, début avril dernier. On était dans un grand trading range, une grande zone de consolidation. Or, on était monté avec un petit peu d'intérêt acheteur. On tentait d'aller déborder ces niveaux, que je vais vous rappeler dans un instant. Et le contre-pied de lundi est un mauvais signal parce qu'on a non seulement fait une fausse sortie, mais en plus connu des mouvements de dégagement, notamment sur le CAC 40, avec des volumes qui étaient très lourds. Hier soir, plus de 7 milliards d'euros échangés. Et en plus, depuis deux séances, de la pression baissière sur les futurs Eurostoxx ou CAC 40. C'est-à-dire que le nombre de contrats futurs a augmenté dans le mouvement de baisse. C'est un signe de pression baissière. Alors, est-ce que ce sont des stratégies baissières vraiment et qui se mettent en place ou de la couverture? Compte tenu du contexte, c'est difficile de le dire. Mais en tout cas, le message de la réactivation haussière est à l'arrêt. Et donc, ce contre-pied n'est pas de bon augure pour la suite. Donc, il faudrait repasser la zone 24230, 24250 sur le DAX pour réactiver cette dynamique haussière. Sur l'Eurostoxx, c'est 5469 points qu'il faudrait déborder pour repartir franchement à la hausse et sortir de cette longue pause. Et puis sur l'indice CAC 40, on a été buté et tenté de déborder ce niveau clé de 7950 points sur l'indice CAC 40 cash, qui vaut environ 11 points de moins que le futur CAC 40. Et donc, ce niveau de 7950, ça a été un vrai contre-pied et une réintégration avec du volume, encore une fois, et de la pression baissière. Pour l'instant, on stagne autour de cette médiane qui est située à 7682 points. Donc, c'est plutôt la partie haute du range, 7546, 7950. Mais on a intégré cette zone avec, encore une fois, un mouvement assez rapide, assez brutal. Donc, au mieux, on peut se stabiliser. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le débordement 7950 points et l'intérêt sur le CAC 40 semble repousser pour maintenant pendant longtemps et on ne voit pas les opérateurs revenir sur l'indice parisien dans ce contexte-là. Donc un contexte lourd en tout cas sur l'indice parisien et pas de momentum, mais quand on regarde les valeurs individuellement, c'est pas un très bon signal qui s'est mis en place ici, bien entendu. L'alerte et le danger, c'est sous 7550 points.
7735 points à l'instant, c'est une hausse de 0,3% pour le CAC 40 cash. Avec bien sûr une publication qui sera surveillée ce soir, c'est la publication de Nvidia. Ça sera après la clôture, après 22h du côté des États-Unis. C'est bien sûr l'un des temps forts de la semaine avec le chiffre d'inflation qui sera publié vendredi aux États-Unis. Un mot quand même, Romain, sur le 10 ans français. On en parlait il y a un instant. 3,5% ce matin pour ce 10 ans français, avec néanmoins un 10 ans italien qui est à 3,56. Donc on voit quand même que ces deux taux sont au coude à coude. D'un point de vue technique, comment vous regardez ce 10 ans français qui est sur des plus hauts du printemps, sur des plus hauts de mars-avril
Eh bien, on a une compression qui s'est formée et on est en train d'en sortir par le haut. Alors, ça reste très canalisé pour l'instant. C'est sous le regard de tous les opérateurs de marché. Donc, c'est peut-être ça qui va former un contre-pied. C'est ce qu'on espère en tout cas. Le risque, c'est que tant qu'on est au-delà de 3,50, le risque, c'est une accélération haussière et la cible graphique donnerait 4,28. Donc, un message qui serait pas bon du tout, évidemment. Pour l'instant, ça semble assez canalisé. Tous les opérateurs sont focalisés sur le risque, donc à surveiller, mais il faudrait repasser sous 3,50 et idéalement 3,43 pour que l'alerte s'invalide.
Merci beaucoup Romain Dobry de nous avoir accompagné ce matin, cofondateur de l'atelier des options, pour faire un point donc technique sur la séance à la Bourse de Paris et donc sur ce 10 ans français, 3,50 pour le 10 ans français, quand le CAC 40 prend 0,3% à 7733 points. Tout de suite, on regarde un petit peu ce qui se passe sous le capot en portefeuille. Avec Alain Dubrul qui nous attend depuis Claresco. Alain Dubrul, directeur général délégué de Claresco Finance. Bonjour Alain, merci de répondre à l'appel de BFM Business. Vous serez avec nous tous les mercredis matins dans cette émission afin de regarder un petit peu ce qui se passe du côté des valeurs. Bon, en un mot, revenons quand même sur ce début de semaine qui a été un petit peu compliqué pour certaines valeurs, pour les valeurs financières, pour les valeurs domestiques, pour le secteur des concessions. Ce sont des valeurs qui ont grosso modo perdu un peu plus de 10% en l'espace de deux jours.
Oui, bonjour Étienne. Mais effectivement, l'annonce par le Premier ministre du vote de confiance a reposé beaucoup plus tôt que prévu la question de l'instabilité politique en France. Et en conséquence, on a noté dès lundi après-midi, mais surtout hier, une défiance globale en fait en direction des valeurs françaises. Alors ça s'est traduit d'abord par des ventes de paniers qui fait que des valeurs même pas si françaises que ça, comme Saint-Gobain par exemple, ont ouvert à moins 4 hier matin, avant de finalement terminer plutôt proche de zéro. Mais c'est vrai que les valeurs qui ont le plus souffert sont celles qui ont une exposition domestique, dont typiquement des valeurs de ce qu'on appelle de collectivities, c'est-à-dire type Vinci, Eiffage. D'abord parce qu'elles sont très exposées à l'activité de la France, mais aussi parce que ce sont des activités un petit peu régulées qui peuvent être assez sujettes à des surtaxations, comme on l'a vu l'année dernière, enfin Vinci qui est assez présent dans le métier des autoroutes. Il y a pas mal de discussions pour leur mettre des taxes sur les, entre guillemets, super profits. Donc c'est sûr, ce sont des valeurs qui ont beaucoup souffert, et je pense pour au moins quelques semaines, elles vont rester sous pression. Maintenant, quand on regarde la France, il y a ce qui est coté à Paris et puis ce qui est vraiment exposé à la France. On constate quand même souvent que dans ce genre de crise, il y a une surréaction au début où on vend la France, entre guillemets, et puis après, il y a quand même un tri qui se fait. Parce que bon, même pour les sociétés de concession automobile, enfin de autoroutière, il y a des règles qui font que de toute façon leur rentabilité est relativement bien protégée. On l'avait vu dans le passé avec Ségolène Royal. Donc il y a toujours des annonces politiques qui fait qu'on va les taxer, mais en réalité, au bout d'un moment, les contrats s'appliquent et il y a des rattrapages qui ont lieu. Donc je dirais qu'il faut un petit peu relativiser ces menaces. Mais même au-delà, quand on regarde la cote française, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bon, des valeurs françaises, mais qui sont très peu exposées à la France, ont tendance à surperformer. On pense notamment aux valeurs de luxe, à Pernod, à LVMH, c'est encore le cas ce matin. Pourquoi? Ou L'Oréal? Bah, tout simplement parce qu'elles sont cotées à Paris, mais elles ont une faible exposition à la France. Mais je dirais, d'un point de vue boursier, ce qui serait plus intéressant de regarder, c'est des valeurs qui ont souffert, mais qui, de mon point de vue, ne sont pas si exposées à la France. Je pense par exemple à une mid-cap qui s'appelle SPI, qui est présente dans l'ingénierie. Alors oui, elle a à peu près 30% de son activité en France, mais c'est une société qui a beaucoup monté cette année parce que près de 60% de son activité, en fait, est exposée à la zone germanique, donc l'Allemagne notamment, qui est plus grosse que la France chez SPI, mais aussi l'Autriche, la Suisse, l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Toute une zone qui reste tout à fait favorablement exposée à la thématique du plan de relance allemand. Et ça, ça n'a pas changé. Donc ça, cette valeur, elle a perdu un peu plus de 5% hier. Typiquement, ça c'est le genre de surréaction, à mon avis, qui devrait se corriger dans les prochaines semaines.
Moins 0,2% pour ce titre SPI à 42 euros. Alors il y a un point commun hein, sur le secteur bancaire, sur SPI, sur Vinci. Ce sont des valeurs qui ont très bien performé depuis le début de l'année. Il y a quelques jours de cela, Vinci était encore sur un plus haut historique. Malgré la baisse d'hier, Société Générale gagne toujours 90% depuis le début de l'année. BNP est à plus 30, quand SPI est toujours à plus 58% depuis le début de l'année. Quand vous regardez ces dossiers, est-ce qu'aujourd'hui, il faut se dire il faut réallouer un petit peu les portefeuilles, notamment moins être exposé à la France, aller un petit peu plus du côté de l'Allemagne, des États-Unis, ou non, il y a des affaires à faire et allons-y, puisque ça va peut-être durer pas très longtemps, comme c'était le cas, souvenons-vous, début avril, hein, lors de Liberation Day, hein, la correction avait duré 2 jours à la Bourse de Paris, et puis hop, derrière cela, le CAC 40 avait vite rattrapé les points perdus.
Moi, je pense plutôt à une situation comme celle du moment de la dissolution, où là, les valeurs françaises, globalement, avaient été pénalisées juste par leur géographie. Donc, ça peut durer un peu plus de temps. Je dirais le temps au moins qu'on voit si le gouvernement survit ou non au vote du 8 septembre, parce qu'on ne peut exclure qu'il survive malgré tout. Hein. Et puis, non, alors, effectivement, il y a quand même, à court terme, la géographie France va peser. Ça, c'est inévitable. Des personnes qui auraient été prêtes à investir en valeurs européennes vont idéalement essayer d'éviter la France. Et ça, ça touche même les valeurs françaises qui ne sont pas, entre guillemets, françaises. Donc oui, la France, en tant que telle, va continuer d'être pénalisée au moins pour quelques semaines. En revanche, ça n'empêche pas qu'au sein des valeurs françaises, il n'est pas inintéressant de s'intéresser à celles qui baissent, entre guillemets, injustement, parce que lorsque la marée va se retirer, celles-là, a priori, ne souffriront pas des évolutions éventuellement défavorables qu'on pourrait avoir en France.
En tout cas, le marché le marché en 2025 est vraiment difficile. On en parlait hier dans cette émission, mais typiquement, ce matin, la plus forte baisse du CAC 40, c'est Orange. C'est une valeur défensive. Si on regarde depuis le début de l'année, autre secteur défensif, le secteur de la pharma, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, le marché est un petit peu en train de perdre tous ses repères, non, quand même, Alain Dubrulle?
C'est vrai. Alors, quand on regarde, pour revenir sur la performance des actions européennes hein, depuis le début de l'année, qui en gros, enfin, la France sous-performe avec le CAC en grande partie à cause des valeurs de luxe et consommation qui ont sous-performé. Mais si on regarde l'ensemble de l'Europe, on a encore une performance à deux chiffres. Hein. Qu'est-ce qui a tiré cette performance? En fait, il y a trois choses. Hein. Globalement, il y a les banques qui ont monté de pratiquement 40%. Bon, elles partaient de très bas, elles sont encore assez sous-évaluées, mais c'est un des gros drivers de performance. Donc on a les banques, on a les valeurs de défense, bien entendu. Bon, ça c'est une thématique, là elles ont beaucoup monté, il pourrait y avoir un peu de prise de profit, mais je dirais que le besoin d'accélérer fortement la défense en Europe, ça reste une thématique tout à fait présente. Et puis derrière, en fait, si on enlève ces trois éléments-là, et puis oui, les valeurs exposées au plan de relance allemand, donc des valeurs d'infrastructure notamment, qui ont beaucoup monté au mois de mars. Mais si on enlève ces trois secteurs, j'allais dire, le reste n'a pas fait grand-chose en réalité. Vous voyez, donc c'est pas comme la tech aux États-Unis qui à un moment faisait toute la perf, mais disons qu'en Europe, si on enlève les quelques secteurs phares, le reste, aujourd'hui, enfin, fondamentalement, n'a pas fait grand-chose. Et si l'économie, comme on s'y attend quand même, hein, s'améliore au deuxième semestre, avec l'effet de la baisse des taux, l'effet du démarrage du plan de relance allemand, etc., normalement, il y a quand même du potentiel intéressant pour disons, l'ensemble des valeurs, et à nouveau en 2026. L'autre point aussi, c'est que avec la guerre douanière de Trump, un des arguments, c'est qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Et donc l'incertitude, c'est quelque chose qui a freiné un certain nombre de décisions d'investissement. Je dirais pas des investissements de croissance, mais simplement des investissements courants, si je puis dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis le pied sur le frein en attendant d'en savoir plus. Eh bien, une des raisons pour lesquelles les marchés ont monté suite aux deals commerciaux, même s'ils sont un peu inégaux et pas forcément très généreux, par exemple pour l'Europe, c'est tout simplement que les marchés se disent ben maintenant, les deals tarifaires, on sait à peu près où on va. C'est peut-être forcément très bon, mais au moins on sait où on va. Et donc, on a plus de visibilité pour investir, pour relancer des projets d'investissement qui avaient été mis un petit peu en hold. Et en conséquence, le marché table en fait tout simplement sur une sorte de retour à la normale qui ferait que l'activité pourrait être un petit peu meilleure au deuxième semestre. Alors typiquement, ce genre d'argument, il se retourne dans le cas de la France, où avec l'événement politique qu'on va voir dans les prochaines semaines, ça milite pour, là uniquement dans le cas français, de faire une pause sur un centre de décision en attendant d'en savoir plus. Pardon. Idéalement, ça serait une pause assez temporaire quand même.
Merci beaucoup Alain Dubrulle de nous avoir accompagné ce matin, directeur général délégué de Claresco Finance, afin de regarder un petit peu ces valeurs qui ont souffert hier et qui peinent à rebondir ce matin, à l'image notamment du CAC 40 qui reprend 0,1% après avoir cédé plus de 3% en l'espace de deux jours, 7718 points. Très courte pause, on se retrouve dans un instant, deuxième partie de cette émission. Nous continuerons à regarder le marché obligataire avec Ronan Blanc, gérant obligataire chez Montpensier Arbevel, et puis ensuite Christian Bitot et Charles-Henri Monchot seront en duel. Alors c'est un duel qui n'est pas là pour les opposer, loin de là, mais pour avoir des points de vue différents, surtout le point de vue de Charles-Henri Monchot qui est depuis Genève. Comment la Suisse regarde aujourd'hui la situation française? On voit cela dans un instant dans Good Morning Market. Vous le savez, c'est le nouveau rendez-vous sur BFM Business, 9h, 10h sur BFM Business, et ensuite à partir de 10h vous retrouvez les experts. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Braque.
Bonne morning market, 9h-10h sur BFM Business pour suivre l'ouverture des marchés. On l'a vu tout à l'heure à 9h, un CAC 40 qui a ouvert sur une hausse de 0,2-0,3%. Et puis cette hausse est en train de s'étioler d'une vitesse impressionnante puisque désormais le CAC 40 est parfaitement stable. Nous sommes à 7714 points. LVMH, Total et Pernod Ricard sont les trois plus fortes hausses. Des hausses supérieures à 1%, 492 pour LVMH, 53,52 pour Total Energy, quand Pernod Ricard de son côté est à 98,96 avant la publication de ses résultats annuels. Société Générale qui a perdu plus de 10% l'espace de deux jours est l'une des plus fortes baisses, avec un titre qui perd un peu plus d'1%. Bon, il gagne toujours 90% depuis le début de l'année, 51,36 €. Crédit Agricole également perd un peu plus d'1% à 15,49 €. Tout de suite, on fait un point sur le marché obligataire. Avec Ronan Blanc qui est avec nous ce matin en plateau, gérant obligataire chez Montpensier Arbevel. Bonjour Ronan, merci Bonjour. D'être avec nous ce matin. Bon hasard de calendrier, vous venez un jour où il se passe pas mal de choses sur le marché obligataire. 10 ans français qui est à 3,49, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins stable ces dernières heures. Néanmoins, ça y est, là, nous sommes à 5-6 points de base entre la France et l'Italie sur les deux références sur ces deux 10 ans. Ça montre bien que si le 10 ans français est stable, ce sont en fait les autres taux qui montent moins fortement.
En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'environnement obligataire est plutôt favorable aujourd'hui, c'est-à-dire que le différentiel d'inflation est plutôt à l'avantage de l'Europe. Donc les flux ont naturellement privilégié cette zone-là, et finalement, le déclassement de la dette française a déjà été validé, vous l'avez dit vous-même. Ça fait longtemps que les investisseurs ne regardent plus trop les notes des agences de notation, puisqu'il y a un écart qui est assez significatif entre la France et l'Italie. Et pour autant, les niveaux de rémunération sont quasiment proches. Le déclassement, en fait, est validé. Il y a un croisement en termes de trajectoire fiscale et des déficits des deux pays. Donc, on sait bien pertinemment que maintenant, c'est à nous de faire le boulot. Le boulot est décalé avec tous les événements politiques de ces derniers jours. Pour l'instant, il n'y a pas de fatalité encore marquée dans le marché, parce que encore une fois cette incertitude politique est quand même avec nous depuis de nombreux mois maintenant, hein. On a du mal à imaginer qu'il faille autant de temps pour essayer d'économiser 40 milliards, mais c'est quand même la situation à l'heure actuelle. Et j'ai envie de dire que dire qu'il y a des déficits qui sont relativement significatifs, c'est une thématique qui est mondiale de toute manière, hein. C'est la même chose aux États-Unis. La Chine, c'est aussi la même chose. Donc, encore une fois, il faut éviter d'être au milieu de l'œil du cyclone. Pour l'instant, c'est le cas. Donc, il va falloir trouver les moyens d'en sortir pour que les projecteurs soient mis sur un autre souverain que la France demain.
Et ça change quoi pour les entreprises qui se refinancent? Ça change quoi pour les ménages? Parce qu'au final, le 10 ans français, c'est quand même un petit peu une boussole, hein, dans ce marché obligataire, en tout cas pour les entreprises françaises.
Alors, honnêtement, de moins en moins, hein.
Ah oui,
la notion de même de taux sans risque a quand même beaucoup été attaqué ces derniers mois, on va dire ça comme ça. Les références d'hier sont pas spécialement celles de demain. Tout le monde a en tête l'infatigable Bund allemand, mais avec les dépenses qui vont être avancées dans les prochaines années, est-ce que cette référence est toujours la bonne à prendre? En fait, nous, ce qu'on note, c'est que globalement, ce sont les entreprises aujourd'hui qui font preuve d'austérité financière, qui font le boulot, qui font attention, et donc les flux vont naturellement plutôt s'investir sur les dettes d'entreprise que sur les dettes d'État, pour ceux qui peuvent faire cet arbitrage-là. Donc, les entreprises, aujourd'hui, européennes et même françaises, on a eu une émission en hélice hier, n'ont pas trop de difficultés à émettre de la dette nouvelle dans cet environnement, pourvu que, encore une fois, elles aient cette confiance des investisseurs. On sait pertinemment que c'est le nerf de la guerre, hein. La confiance, ça se gagne en années, ça se perd en minutes. Donc, depuis la sortie de la crise Covid, les entreprises, dans leur ensemble, hein, il y a des cas particuliers où on a eu des défauts, notamment sur le marché à yield européen, ont plutôt été convaincantes, ont profité des années de reprise post-Covid pour plutôt mettre de l'argent de côté, avoir un matelas de sécurité. Le ratio de liquidité rapporté à la dette en Europe est quasiment au plus haut historique. Donc, elles s'attendent de fait à des jours plus difficiles. On le sait tous que demain, le scénario dominant, ça va plutôt être celui d'une croissance relativement molle avec un petit peu plus d'inflation qu'avant. J'ai envie de dire, c'est pas grave. Il va falloir apprendre à vivre avec. Et puis demain, peut-être qu'on aura un autre gouvernement avec un penchant un peu plus à gauche. Et donc, des impôts exceptionnels supplémentaires sur les gros corporates. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir miser. Mais j'ai l'impression qu'avec la baisse des marchés du CAC 40 de ces quelques derniers jours, c'est déjà quelque chose que les investisseurs ont validé dans les faits. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Il est encore temps d'agir. Hein, il faut pas être, encore une fois, fataliste. Mais ça serait bien qu'on connaisse pas déjà la fin du film avant de l'avoir vu. Et voilà, les alertes, on les a de manière un petit peu successive. Donc, on a encore du temps, mais le temps joue un peu contre nous.
Là, vous avez parlé de Elis, hein, qui a réussi à faire un financement obligataire sans problème au-delà des 3%, hein, je crois. Qu'est-ce que ça donne pour les entreprises qui sont un petit peu plus fragiles? On le voit, la conjoncture se dégrade, il y a pas mal d'incertitudes, notamment pour les sociétés dites à yield, hein, donc au rendement, des sociétés qui sont un petit peu plus fragiles, qui n'ont pas la chance de se financer à 3%. Est-ce que pour elles, le contexte est un petit peu moins favorable pour se refinancer?
En fait, je vais être un peu provocateur, mais le maintien des taux souverains à des niveaux relativement élevés, en tout cas par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, fait plutôt partie de la solution. Pourquoi? Parce que ça oblige finalement les directions financières, les dirigeants à faire un petit peu attention à la manière dont ils vont allouer leurs ressources financières. Et c'est encore plus vrai pour les entreprises de cette catégorie que vous avez citée à haut rendement, parce que il faut qu'elles maintiennent à tout prix ce cordon ombilical avec les investisseurs. Et donc, pour le maintenir, il faut construire cette confiance dans la durée. Et si vous construisez cette confiance dans la durée, il n'y a aucun problème pour que les investisseurs vous prêtent de l'argent, pourvu que cet aiguillage soit bien fléché, ait de l'intérêt, que si une opération d'acquisition qui soit effectuée, il faut que les synergies qui soient vendues soient vraiment celles qui vont être réalisées et pas simplement simplement celles que les consultants vous auront survendues et qui n'existent qui n'existeront finalement pas. Donc pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on a devant nous et ce qu'on a depuis 2-3 ans. Et c'est pour ça que c'est un marché qui va plutôt bien. C'est un marché qui s'est assaini.
Donc, il n'y a pas beaucoup de
résultats. Il y a eu des défaillances. Et en fait, le reproche qu'on a pu faire, c'est que le maintien des taux bas qu'on a eu il y a pré-Covid et juste après le Covid a maintenu en vie certaines sociétés qui auraient dû tomber. On appelle ça vulgairement un peu les zombies. Donc on pense notamment à des groupes comme Casino qui étaient malades depuis très très longtemps hein, et dont la restructuration financière a été assez coûteuse pour les créanciers.
On l'a vu avec SFR et également.
On l'a vu avec Altice SFR. Et il y en aura d'autres, mais en fait c'était les business models d'avant. C'est-à-dire ceux qui finalement arriver à survivre parce que les taux de refinancement étaient toujours un petit peu plus bas et donc ils se maintenaient à flot, c'est-à-dire qu'ils généraient suffisamment de trésorerie pour payer leurs charges financières et donc globalement on masquait un petit peu les difficultés. Là maintenant c'est plus possible, c'est-à-dire que si vous avez des leviers financiers, donc rapport dette sur votre résultat d'exploitation qui sont trop forts, bah, tout le monde a compris que dans le monde de demain où les taux vont se maintenir à des niveaux plus élevés, bah, c'est juste pas viable. Et donc il y a une espèce d'américanisation des directions financières en Europe. Et donc, les corporates, les entreprises qui se sentent un petit peu dans cette difficulté-là vont aller au devant des créanciers et vont demander une réorganisation de leur dette plutôt que, voilà, attendre la dernière minute et restructurer de manière très prononcée leur dette.
Dernière question, Renan Blanc. Est-ce que, avec des marchés qui sont au plus haut du côté des États-Unis, les incertitudes que l'on connaît, il y a une réallocation des allocations où on met un petit peu moins d'actions et puis on va chercher du crédit puisque, comme vous venez de le dire, eh bien, on a un marché qui est plutôt sain dans l'ensemble et qui offre du rendement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver de l'obligataire à 4-5% sans trop de risques sur les prochaines années.
Et surtout si on ramène ce rendement à la volatilité de la classe d'actifs.
Et l'inflation
aujourd'hui,
en plus.
Et encore plus de l'inflation. Ouais. Vous êtes payé pour... Enfin voilà, ouais. Vous payez plus que l'inflation. Donc aujourd'hui, oui, il y a beaucoup, notamment d'institutionnels, qui ont revu leur allocation à la hausse sur le crédit. Je pense pour de bonnes raisons. Alors, vous allez me dire, je prends ma parole, mais objectivement, là, voilà, les éléments sont quand même assez factuels. Avec un risque supplémentaire peut-être aux États-Unis où la visibilité monétaire est beaucoup moins marquée, et ce d'autant plus que voilà, on a une pression sur la banque centrale à agir dans un contexte où l'inflation a pas complètement été dissipée. Donc on aura des petites baisses homéopathiques côté réserve fédérale, mais qui seront sans doute pas suffisantes pour satisfaire l'administration en place, et donc cette pression va s'accentuer. Et la conséquence, c'est que on a finalement des taux longs américains qui se maintiennent à des hauts niveaux, voire qui pourraient continuer à progresser. Et donc nous, on plutôt privilégier le crédit européen face au crédit américain, qui est pour nous un petit peu plus à risque d'avoir des pics de volatilité au cours des prochains mois.
4,27 pour le 10 ans américain quand le 10 ans français est à 3,49. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Renan Blanc, gérant obligataire chez Montpensier Arbevel, pour faire un focus sur le marché obligataire. Vous le savez, dans cette émission, chaque jour, on fait un focus sur les ETF, sur l'Asie, et donc le mercredi sur l'obligataire. Demain, nous parlerons des produits dérivés. Quand le vendredi, ce sont les entreprises qui auront leur place dans cette émission. Et justement, vendredi, eh bien, ça sera le patron d'Elis qui sera avec nous dans Good Morning Market afin de revenir sur les résultats qui ont été publiés il y a quelques jours et puis surtout sur le business de Elis. Tout de suite, à 9h39, c'est le face-à-face. Face-à-face ce matin avec Christian Bitteau, professeur de finance à l'ESSEC et à distance depuis Genève, Charles-Henri Monchaud, Chief Investment Officer de la banque CIS. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs.
Bonjour.
En plateau, donc, Christian Bitteau.
Bonjour.
Merci d'être là en plateau, Christian, ce matin. Et donc, Charles-Henri Monchaud. Tiens, je vais commencer avec vous, Charles-Henri Monchaud, pour avoir un petit peu votre point de vue. Bah, depuis le lac Léman, depuis Genève, comment vous regardez la situation française? Est-ce que dans les médias, du côté de la Suisse, la situation est jugée préoccupante ou au final, bah non, malheureusement, l'incertitude politique est là, présente en France, comme elle est présente également, malheureusement, dans d'autres pays européens.
Alors, on suit ça de très près, hein. Vous savez, on est branché sur les télés françaises, donc on suit ça de très près. Écoutez, comme ça a été mentionné avant, tous les pays ont leurs problèmes, hein. Vous savez, nous, on a un franc suisse qui est trop fort, on vient de se prendre 39% de droits de douane. Ce week-end, au Royaume-Uni, The Telegraph titrait que certainement que le Royaume-Uni pourrait faire appel au FMI. Ça a été mentionné avant, il y a une espèce de crise de la dette mondiale. Et puis la situation française, elle est connue depuis très longtemps. Je rappelle qu'en 2012, The Economist titrait une bombe à retardement au sein de l'Europe. Le CAC 40 à l'époque était à 2008, il est à 7007 aujourd'hui. Donc apparemment, c'est possible de survivre et de faire relativement bien dans ce contexte. Cela dit, vous faites maintenant face à une crise relativement grave. On voit, hein, les marchés français sont testés. C'est une crise effectivement de la dette fiscale, mais surtout politique, voire sociale. Maintenant, je vais peut-être vous surprendre. On n'est pas si alarmiste que ça, en tout cas de notre côté. Pourquoi ? Parce que si on considère la situation politique, alors je ne suis pas du tout un expert de politique française, mais ce qui peut se passer le 8 septembre, si on regarde les différents scénarios, donc François Bayrou qui resterait en faisant des concessions sur son budget, un nouveau Premier ministre, ou alors une dissolution, on ne voit pas de grands changements au niveau de la politique fiscale. Peut-être des aménagements, mais pas de grands changements. Et c'est certainement ce qui peut rassurer les marchés obligataires. Je suis pas en train de dire qu'il va pas avoir de volatilité. Je pense que les prochaines semaines vont être très compliquées, avec potentiellement des tensions sur l'OAT, des tensions sur les banques françaises, on l'a vu hier, des tensions sur l'euro. Mais ça peut créer des opportunités d'achat, parce que comme c'était mentionné avant, c'est déjà relativement bien pricé, hein, que ça soit sur les spreads, que ça soit sur les évaluations des entreprises françaises, elles se traitent avec un escompte. Donc, la volatilité à court terme, oui. Par contre, peut-être des opportunités d'achat avec un scénario du pire, ça serait une démission d'Emmanuel Macron, parce que ça amènerait une très grande incertitude.
Et bien sûr, oui, ça sera un scénario qui ferait bien chuter les marchés. Du côté de chez Swiss Life Banque Privée, hein, dont vous êtes également partie, Christian Bitteau, hein, vous êtes professeur de l'ESSEC, mais vous faites partie également de Swiss Life Banque Privée. Comment vous regardez la situation française ? Avec pour l'instant pas de panique sur le marché obligataire, hein. Je cesse de le répéter, mais c'est vraiment la bonne nouvelle. Si on dézoome, pour l'instant, ça tient.
Plan politique, sur le plan social, là je ne ferai aucun commentaire.
Oui.
En revanche, pour les marchés, finalement, de toute façon, cette situation est connue depuis la dissolution, depuis les chamboulements politiques et de gouvernement, ça défile, mais notre dette, vous l'avez souligné, est à 3,49, 3,50 pour le 10 ans dette d'État qui sert de référence, et les taux d'intérêt sont finalement assez bas. Oui, nous nous sommes un peu écartés, c'est la volatilité qu'on va connaître dans les jours à venir, des taux d'intérêt allemands qui eux-mêmes ont un tout petit peu monté, ça, on reparlera de ça tout de même. Le sous-jacent des taux d'intérêt, la référence, ça monte un tout petit peu, mais très peu. 3,50 pour emprunter à 10 ans, c'est encore très peu. Vous avez rappelé que les États-Unis sont à 4,30 pour emprunter à 10 ans, si je prends la même référence.
Et le taux BCE est à 2%. Donc
oui, voilà. En plus, une courbe des taux positive, et on en a besoin, parce que la croissance européenne en zone euro est toujours aussi atone. Et on sait qu'une courbe positive permet normalement de faciliter le crédit et l'activité financière, l'activité d'investissement surtout. Mais ce qui se passe en fait en zone euro, et tout particulièrement en France, c'est que les taux d'intérêt, c'est le résultat de l'offre et de la demande. Alors l'offre, on le sait, ce sont les États qui empruntent de plus en plus. Les entreprises, de moins en moins, ça a été souligné tout à l'heure. Donc, il y a du papier proposé sur le marché, mais la demande de papier, c'est-à-dire la demande d'épargne financière, augmente parce que la population vieillit, parce que les produits classiques, notamment en France, d'investissement sont des produits d'assurance qui consomment quasiment obligatoirement de l'obligation, et puis parce que le taux d'épargne en France a augmenté terriblement. Nous en sommes à plus de 18%. C'est-à-dire la non-consommation. Et cette non-consommation fait que, il nous faut du papier. C'est-à-dire l'investisseur, le particulier, dit où est-ce que je peux placer mon argent? C'est pour ça que le taux d'intérêt est toujours un équilibre. Et donc, oui, il y a plus de dettes, mais il y a plus de gens qui veulent acheter de la dette.
Très concrètement, on l'a vu ces dernières semaines, forte décollecte sur le livret A, comme le taux a baissé. Et puis, cet argent va sur l'assurance vie, va sur du fonds en euros, et donc, ouais, indirectement, sur la dette française.
C'est l'effet de la repentification de la courbe des taux. Le monétaire paye moins, donc on va sur des placements plus longs, ouais. Voire on soutient les marchés d'actions. C'est pour ça que je pense que les semaines à venir sont plutôt des points d'entrée à venir, parce que l'argent est toujours là, parce que la consommation, ça, c'est le problème politique social, est très faible. On est le seul pays quasiment dans le G20, on est le seul pays du G20 à avoir depuis un an des ventes au détail en recul, moins 1,9%. Alors que vous savez, on a des chiffres à plus de 3% aux États-Unis, enfin on a des chiffres positifs partout.
En fait, là, si on ferme la boucle, cette épargne, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé, et donc c'est pas de TVA, exactement. C'est moins de croissance. C'est un peu le problème de cette épargne qui est forte.
Et donc, il faut l'absorber. Et heureusement, il y a de la dette. Heureusement que l'État nous fournit de la dette. Sinon, on ne saurait pas où placer l'argent des épargnants.
Et heureusement, il n'y a pas trop d'inflation. On est redescendu sous les 1%, voilà. Heureusement. Parce que bon, si on était dans une situation comme il y a 3-4 ans où on était au-delà des 4% d'inflation, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bon, allez, je vais faire le switch. On va partir du côté des États-Unis quand même avec vous, Charles-Henri Monchaud, sur l'inflation américaine. Parce que si pour nous, en Europe et vous-même en Suisse, le sujet de l'inflation n'en est plus vraiment un, on verra vendredi que du côté des États-Unis, l'inflation est toujours collante, notamment dans le secteur des services.
Alors, ça reste effectivement un point essentiel. On a eu quand même une surprise vendredi hein, avec Jerome Powell qui semble prendre de la distance par rapport à tout ça, avec le fameux pivot de la Fed qui a ouvert effectivement la possibilité d'une baisse des taux dès le mois de septembre. Mais attention, hein, c'est pas non plus garanti. Et c'est pour ça qu'on va avoir les yeux rivés sur les prochains chiffres, pas seulement ceux de l'inflation, mais aussi ceux du marché de l'emploi, parce que même s'il y a une forte probabilité d'une baisse des taux dès le mois de septembre, c'est pas encore gagné. En cas de surprise à la hausse hein, sur l'inflation, peut-être que la Réserve fédérale devra revoir sa copie. Donc c'est effectivement un chiffre essentiel. Évidemment, il y a aussi la saison des résultats avec Nvidia ce soir, mais le chiffre de l'inflation cette semaine, c'est un point crucial pour la suite des affaires sur les marchés américains.
Avec notamment un chiffre d'inflation qui est l'une, bien sûr, des boussoles de Jerome Powell. Jerome Powell qui est lui-même dans le viseur de Donald Trump, hein, avec, on l'a vu cet été, une visite du président américain dans le bâtiment de la Fed. Alors, c'était soi-disant une visite de chantier, mais bon, derrière, le président américain a bien sûr réinsisté devant les caméras et à côté de Jerome Powell pour qu'il baisse les taux. Comment aujourd'hui la Fed peut s'en sortir dans ce contexte, sachant qu'on l'a bien vu, les données ne sont pas favorables pour elle et en même temps, il y a une pression politique qui est là, qui l'oblige à agir d'une certaine façon.
Je pense que tout est résumé dans la courbe des taux. Vous pouvez voir le ça s'appelle les taux courts, où très clairement le marché s'attend à des baisses de taux, même si l'inflation surprend à la hausse. Parce que le marché intègre le fait qu'il y a cette pression politique. On l'a vu avec Lisa Cook, hein, qui va peut-être essayer de gagner du temps, mais qui va potentiellement devoir quitter le conseil d'administration de la Fed, qui va ouvrir une majorité au camp Trump pour une baisse des taux. Donc la partie courte de la courbe intègre cette pression politique. Et par contre, la partie longue, elle l'intègre aussi, mais dans le sens où plus la Fed est influencée de manière politique et baisse les taux à contre-courant de l'inflation, et plus l'inflation à moyen long terme pourrait augmenter. Et donc, vous avez cette pontification de la courbe avec des limites qui vont être imposées à Donald Trump, celles du marché obligataire, parce que le jour où les taux longs montent de manière trop importante, il va avoir une espèce de piqûre de rappel, comme il a eu au mois d'avril avec les tarifs douaniers. C'est le marché obligataire qui décide. Hein. On a parlé de la France. Le marché obligataire décide la situation française. Aux États-Unis, c'est la même chose. Et donc, une fois de plus, on a cette pontification de la courbe qui intègre complètement la perte d'indépendance de la Réserve fédérale.
Et on se souvient notamment en début d'année que quand le 10 ans américain était à 4,5%, Christian Bito, ça commençait un petit peu à clignoter hein, du côté de Wall Street. Comment vous regardez cette situation? Parce que c'est vrai qu'elle est assez complexe, hein, la situation américaine.
L'inflation de vendredi prochain ne m'inquiète pas du tout parce que c'est l'inflation PCE. Alors on sait que c'est le chiffre observé par la Fed, mais l'inflation PCE est calculée sur un panier de biens pondéré par le PIB. Elle a donc 3 semaines de retard par rapport à l'inflation dite CPI.
Sachant que c'est les chiffres de juin.
Oui, c'est pas les chiffres d'août. Hein, l'inflation CPI, on les connaît déjà, donc on aura une inflation qui va être aux environs, si je prends le chiffre complet par l'accord, aux environs de 2,7, 2,8. Je pense pas qu'on a encore les effets d'un potentiel débordement de l'inflation lié au prix des importations, aux taxes douanières, surtout. Ça, en fait, on l'oublie un peu parce qu'on a l'actualité française, on oublie que le dossier Ukraine-Russie n'a finalement pas avancé. Et on voit bien que Donald Trump, c'est l'actualité de ce matin, est en train de s'énerver. Il a pas pris de vacances, pas possible. Il est sur tous les fronts. La Fed, on va en reparler. Il y
Gaza, même maintenant.
Et donc, tout de même, il taxe maintenant les produits indiens de 25 à 50%. Donc, cet effet-là, il faudra attendre encore certainement pas les chiffres de ce mois-ci, les chiffres du mois prochain pour voir s'il pourrait y avoir un dérapage inflationniste. Je pense qu'a priori, non. On le verrait déjà. On aura peut-être un pic, mais pas un dérapage inflationniste. Non, ce qui me semble plus important, c'est l'emploi. Et puisqu'on parlait de limogeage, on voit bien que Donald Trump est tous azimuts. Là, il y a un limogeage tout de même. Moi, ça m'a fait mal. Je me rappelle sur ce plateau avoir parlé des chiffres de l'emploi américain et m'être complètement trompé. Si les chiffres américains sont aussi faux que les chiffres chinois, on a une personne responsable des statistiques. Je retrouve son nom, Madame Erika McEntarfer. Elle a été limogée sur le champ parce que les chiffres de l'emploi américain qui sont clés, puisque la Fed regarde l'inflation et le marché de l'emploi pour voir la prospérité et l'activité américaine. Et ces marchés de l'emploi ont été gonflés, ces chiffres d'emploi gonflés pendant 3 mois consécutifs. C'est pas un chiffre faux. Et dans des proportions énormes, puisque par exemple, au mois de juin, c'était pas 140 000 créations d'emplois, c'était 14 000, 10 fois moins. Il y a une erreur statistique de 250 000 créations d'emplois, ce qu'on appelle les non-farms, c'est-à-dire en dehors du secteur agricole. Et donc moi, je me voyais dire, ben non, la Fed, c'est normal qu'elle attende, parce que finalement, le marché de l'emploi est très résistant. L'économie américaine continue à être résiliente, prospère, tout marche bien. Non, c'est une catastrophe. Et je pense que c'est ça que M. Powell a pris en compte pour, ce qui est rarissime tout de même, annoncer qu'il allait baisser ses taux au mois de septembre, parce que ça commence à ralentir légèrement. Pas de catastrophisme, mais légèrement aux États-Unis. Donc, on va avoir enfin cette baisse de taux d'intérêt.
Mais si je vous comprends bien, aujourd'hui, Christian Bitteau, les différentes boussoles, elles sont soit cassées, soit en panne. Enfin, c'est-à-dire que les effets de base, on l'a bien vu avec les droits de douane, ouais. On a des volatilités extrêmes. C'est-à-dire que vous avez, avec les droits de douane, des effets de stop and go permanents. Là, vous parlez des chiffres de l'emploi qui, bien sûr, ont un impact sur les chiffres d'inflation. Enfin, c'est-à-dire que tous les baromètres des banquiers centraux, là, il faut pas les regarder au dixième près, si je comprends bien.
L'emploi, effectivement, ça, j'ai jamais vu ça dans l'économie américaine, une telle erreur statistique. Elle a été limogée sur le champ. Finalement, Trump, là avait tout de même raison. Parce que 3 mois de suite, elle s'est trompé. Donc, c'est colossal comme erreur statistique. Sinon, les boussoles sont à peu près claires. Il n'y a pas que l'emploi, il n'y a pas que l'inflation. Et il y a d'autres paramètres pour mesurer l'inflation et l'emploi et l'activité économique. Et ce qu'on constate aux États-Unis, c'est que l'activité ralentit légèrement, mais reste toujours positive. La Fed dit on aura plus 1,4 de croissance, d'autres organismes plus 1,5. Nous, on pense peut-être même qu'on aura plus 1,8. On est proche de 2. De toute façon, le dernier PIB était à plus 3, si on prend en rythme sur un trimestre. Donc, on a une économie américaine qui reste encore positive cette année. C'est le principal élément.
Charles-Henri Manchot, comment vous regardez cette situation américaine depuis 6 hein, par rapport aux nombreux éléments qui viennent d'être détaillés par Christian Bitteau ?
Super intéressant de parler de la volatilité au niveau macroéconomique, la volatilité des humeurs de Donald Trump. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que la volatilité des marchés d'actions américaines est relativement basse. L'indice du VIX, donc l'indice de la peur, il est à un niveau très bas. Alors, pourquoi les marchés sont aussi sereins par rapport à toute cette actualité? Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que oui, il y a les droits de douane, mais il faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a quand même, on intègre le fait que la politique monétaire va devenir plus accommodante. Les conditions, ce qu'on appelle le financière, globalement, sont attractives. La liquidité mondiale est orientée à la hausse. On a une économie américaine, effectivement, qui se porte pas si mal. On a également la relance fiscale. La déréglementation, qui est plutôt positive pour les actifs à risque aux États-Unis. Et puis aussi, et c'est un élément très important, la croissance des bénéfices des sociétés américaines qui a vraiment surpris à la hausse pendant le deuxième trimestre. Mais c'est là aussi où il faut surtout pas que ça lâche. Parce que cet élément de croissance des bénéfices par rapport au niveau d'évaluation élevé des marchés, il faut absolument qu'elle tienne. Et là, on va avoir un test grandeur nature ce soir avec Nvidia qui a participé à presque 30% au gain du S&P 500 depuis le début de l'année. C'est 8% de l'indice S&P, donc c'est vraiment très important que cette dynamique de croissance des bénéfices elle reste élevée, parce que c'est aussi ce qui tient ce marché américain malgré tous ces soubresauts et ces bruits au niveau macroéconomique et géopolitique.
Publication, bien sûr, que l'on débriefera demain dans cette émission, la publication de Nvidia. Christian Bitteau, c'est vrai que Wall Street tient relativement bien, même très très bien. On enchaîne les records tous les jours.
Croissance des bénéfices, c'est très clairement qu'on n'a pas en Europe. C'est-à-dire le rapport, il est quasiment de 1 à 10 en moyenne. Progression des PPA entre 1 et 2% sur l'ensemble des marchés européens, plus 10 sur le marché américain.
Est-ce que le dollar faible joue également?
Il sera confirmé ce soir par Nvidia. C'est important, c'est fondamental. C'est la première fois, vous savez que je préfère parler toujours de macro, c'est la première fois qu'une nouvelle micro devient une nouvelle macro mondiale. Les résultats d'Nvidia. Vous vous rendez compte que Nvidia pourrait racheter toute la dette française. Nvidia en capitalisation plus Microsoft, c'est à la fois toute la dette française plus tout le CAC 40. Ça est devenu colossal. Donc, ça sera un élément clé à observer.
4300 milliards.
Peut-être plus que les soubresauts politiques.
Du côté de l'allocation, en une minute, parce que le temps passe très vite, Charles-Henri Monchaud, qu'est-ce que vous faites du côté de Genève, du côté de CISE?
Ben, on est resté orienté actif risqué depuis le début de l'année parce que malgré tout ce bruit, ces nouvelles macroéconomiques, l'inflation reste élevée, que ce soit en dollars et même en euros. Et donc, vous devez être investi dans des actifs risqués, les actions, mais aussi l'or, le crédit. Donc, on reste sur cette orientation qui est plutôt positive pour les actifs risqués, mais on s'attend à tout de même la volatilité dans les semaines qui viennent.
Message de prudence également pour vous, Christian Bitteau.
Non, surtout, et ça nous a été reproché en début d'année dans les conseils, c'est diversification internationale. Oui. On voit bien l'intérêt, en fait, de faire un stock picking où on va chercher les belles sociétés, mais dans le monde entier. Début d'année, on parlait plus que de l'Europe, mais nous, on regardait les chiffres macroéconomiques et voir que les États-Unis baissaient pas autant que ça. Et voir, on constate aujourd'hui les bénéfices d'une grande diversification des portefeuilles. Et donc, ça nous permet de subir la volatilité spécifique du marché français dans un portefeuille qui est très investi sur plein d'autres pays.
Même si ça ne paye pas toujours avec l'effet devise, hein, on l'a vu avec le dollar américain.
Et c'est pour ça qu'on nous l'a reproché, mais le principe d'une diversification, ça marche, mais à moyen long terme. Voilà, ça a été reproché, mais aujourd'hui, on est bien content d'avoir ces positions en actions américaines et la Chine. On renforce un peu la Chine, on n'a pas eu le temps de parler de la Chine. Ce sera peut-être les bonnes nouvelles, la Chine continue son chemin tout droit. Elle est moins visée que l'Inde pour le moment, enfin, on verra le résultat dans quelques jours, mais ça marche assez bien.
Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés ce matin. Donc, Christian Bitteau en plateau, professeur de finance à l'ESSEC et donc à distance. Charles-Henri Monchaud, chef des investissements de la banque CISE. 9h56. Dans une poignée de secondes, vous retrouvez bien sûr Raphaël Legendre et les experts. Quel est le programme de l'émission ce matin, Raphaël?
Le grand ras-le-bol des patrons, Étienne, pour l'ouverture de la REF. C'est tout à l'heure à 14h. Le grand ras-le-bol des patrons qui n'en peuvent plus de cette instabilité politique. Toutes les interrogations sur le budget. Si le 9 septembre, la France se retrouve sans gouvernement, sans Premier ministre, que va-t-il se passer sur le budget? On a déjà connu ça il y a un an, hein, avec l'arrivée de Michel Barnier. Ça s'était pas très bien fini, malheureusement. Et puis on parlera de la balance commerciale européenne qui se dégrade très nettement au deuxième trimestre, notamment sous l'effet de la politique tarifaire de Donald Trump.
Voilà, vous connaissez le programme. Les experts désormais de 10h à 11h sur BFM Business. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 9h pour Good Morning Market. Je vous rappelle la tendance à la Bourse de Paris. Plus 0,46% après une baisse de plus de 3% l'espace de deux jours. 7 745 points. Séance bien sûr que vous suivez en direct sur BFM Business à 15h30 avec Guillaume Sommerer sur BFM Bourse. À demain. Et donc dans un instant, Raphaël Legendre et ses experts.
Good Morning Market sur BFM Business.